Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la nouvelle vague, chronique d'une jeunesse sur pellicule. Il y a quelques semaines, les organisateurs du Festival de Cannes ont publié l'affiche de la 69e édition prévue au printemps prochain. Elle se présente sous la forme d'un montage de plusieurs photogrammes tirés sur la pellicule du film Le Mépris de Jean-Luc Godard, sorti en 1963. Empli d'une lumière jaune éclatante, on y distingue la silhouette lointaine de l'acteur Michel Piccoli. Un choix unique pour un hommage multiple à Jean-Luc Godard, à Michel Piccoli, à ce film phare de la nouvelle vague qui illustre une fois encore avec quelle force ce mouvement a bouleversé l'histoire du cinéma. À la croisée des décennies 50 et 60, une bande de jeunes réalisateurs français s'est mise en tête de bousculer l'ordre établi du cinéma de papa. En quelques années, ils sont entrés avec fracas dans le 7e art, ils ont ouvert la voie à des centaines de jeunes cinéastes, modifié la manière de filmer et, de film en film, bâti les mythes d'une génération. Mais en quoi la nouvelle vague représente-t-elle une rupture? Qu'est-ce qui réunit ces jeunes auteurs en quête d'image? S'agit-il d'une école, d'un mouvement, d'une véritable révolution? Autant de questions pour signifier qu'au-delà des légendes, la nouvelle vague incarne surtout un moment, celui d'une jeunesse coincée entre deux pôles de l'histoire contemporaine française, les ruines de la libération et les barricades de mai 68. Notre invité en seconde partie d'émission, Antoine Debac, historien et critique de cinéma, professeur à l'École normale supérieure. Il est auteur de plusieurs livre et d'un documentaire sur le sujet. Vous entendrez également un reportage d'Anna Leverzo qui s'est rendue à la FEMIS, l'école de cinéma, pour interroger les futurs cinéastes sur l'héritage de la nouvelle vague et les dynamiques actuelles du 7e art. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob avec l'appui des documentalistes de Radio France, attachée de production Elisa Mar et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, mixage Grégory Wallon, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Janvier 1954, Paris. Au 146 avenue des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement, se trouvent les bureaux d'une toute jeune revue, les Cahiers du cinéma. Là, dans l'atmosphère brumeuse des cigarettes, sous le regard des posters bienveillants de Rossellini et d'Hitchcock, entre le cardigan déboutonné de la Monica d'Igmar Bergman ou du Scarface en mitraillette de Walter Hawks, une petite révolution est en marche. La revue à la couverture jaune, fondée 3 ans auparavant par André Bazin, Jacques Doniol Valcroz et Joseph-Marie Loduca, a vu débarquer une bande de jeunes garçons intrépides. Ils ont une vingtaine d'années. Ils s'appellent François, Jean-Luc, Jacques. Bientôt, on les appellera Truffaut, Godard, Rivette, et ils ont le vent en poupe. Leur chef de file est un peu plus âgé. Il se prénomme Maurice Scherrer, mais signe ses papiers sous le pseudonyme d'Éric Romer. Passe parfois un autre ami à la bonhomie contagieuse, lui c'est Claude Chabrol. De temps en temps, on y croise aussi ceux de la rive gauche, Alain René, Chris Marker, Jean Rouge et les plus jeunes, Agnès Varda, Jacques Demy ou Jacques Rosier. Ceux qu'on rebaptise rapidement les jeunes Turcs ont pour tout bagage leur culture cinématographique, les milliers de films qu'ils ont vus. Une cinéphilie construite dans les salles obscures des ciné-clubs qui pullulent dans la capitale à cette époque ou dans leur second temple dirigé par Henri Langlois, la Cinémathèque française. Les premières lignes de la nouvelle vague s'écrivent donc sur papier glacé et dans un rôle-titre, celui de critique. Les rédacteurs en chef André Bazin et Jacques Doniol Valcroz, pas toujours d'accord entre eux, apprécient la plume corrosive de leurs collaborateurs. Dans leur papier, ces jeunes défendent des cinéastes qu'ils aiment, Hitchcock, Hawks, Rossellini, Renoir ou Bresson, et attaquent violemment les autres. Avec ces contributions, la ligne éditoriale des cahiers s'affirme. En ce mois de janvier 1954, dans le numéro 31 de la revue des cahiers du cinéma, François Truffaut signe un article ravageur qui fait polémique. Au fil des lignes, il dresse le portrait sans concession du cinéma français dit de qualité, incarné par des réalisateurs comme Claude Autant-Lara, Jean Delannoy ou René Clément. Il dénonce leur réalisme psychologique et leur pratique de l'adaptation littéraire représentée par les célèbres scénaristes Jean Orange et Pierre Bost. Truffaut pense au Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy ou à Jeux interdits de René Clément. Et les mots sont forts, imposteurs, salauds. Le style Truffaut marque les esprits, forcément. Il est rapidement recruté par l'hebdomadaire culturel le plus lu du moment, Art, dans lequel il continue son travail de sape. Trois ans après, en mai 1957, il publie un autre article qui vaut pour manifeste. Vous êtes tous témoins de ce procès. Le cinéma français crève sous de fausses légendes. Truffaut s'attaque cette fois à l'industrie du cinéma installée confortablement dans les studios, contrôlée par une armée de techniciens où les vedettes citent leurs scénarios trop écrits. Il dénonce l'absence de création, le parcours d'assistants combattants que les jeunes réalisateurs doivent affronter avant de pouvoir tourner leur premier film. Le jeune critique annonce aussi un programme, celui d'un nouveau cinéma, un cinéma d'auteur porté par les jeunes. Et il conclut « Les films de demain seront tournés par des aventuriers ». Mais ces aventuriers, ce sont eux, bien sûr.
Quand le cinéma a été inventé, il a intéressé des gens jeunes. Il est certain que, à peine Hans Griffith, tous ces gens-là ont commencé à 18 ans, 20 ans, 22 ans. Cécile Benmy, il était un jeune homme, vraiment, en tournant en Californie. Et après, probablement à cause de l'invention du parlant, les films sont devenus trop chers et on a décidé qu'on ne pouvait pas confier tant d'argent à des gens de moins de 45 ans. Et je crois que c'est comme ça que le cinéma est devenu trop solennel. Alors qu'est-ce qu'on a fait, nous, au fond, la seule chose commune à tous nos articles, les cahiers du cinéma, c'était de dire qu'il faudrait qu'on puisse faire un film à 20 ans, comme Radiguet a pu faire Diable au corps à 16 ans. C'est parce que certainement, je crois qu'on doit faire des choses très importantes quand on est jeune, et que c'est vraiment dommage. Je ne dis pas que ce qu'on fait après 35 ans n'a pas d'intérêt, mais ce qu'on fait avant est inestimable.
À la fin des années 50, le grand thème, c'est la jeunesse. La 4e République vit ses dernières heures et la presse de l'époque s'interroge sur la génération à venir. Signe de cet intérêt, la publication par l'Express, le 3 octobre 1957, d'un dossier spécial. L'hebdomadaire à la mode, dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giroux, invente une expression, la nouvelle vague, titre d'une grande enquête qui sonde les goûts et les pratiques de 18-30 ans. Au rayon culture, il en ressort que cette jeunesse-là lit François Sagan et n'a Dieu que pour Brigitte Bardot dans les films « Et Dieu créa la femme ». Au départ, la nouvelle vague n'est donc pas une expression spécifiquement liée au 7e art. Mais quelques mois plus tard, Pierre Billard, un critique, l'applique au jeune cinéma français. Il s'intéresse notamment à la bande des cahiers du cinéma, ces jeunes turcs qui, après avoir été critiques, ont pris la caméra à leur tour, hors champ, autrement dit, hors du système. Et ils ont quelques modèles, les films ethnographiques de Jean Rouche, ceux de Jean-Pierre Melville ou La Pointe Courte, le premier long-métrage de la jeune photographe Agnès Varda. Le point commun de ces projets, ils sont réalisés de manière indépendante, en dehors des studios sans vedettes, tournés avec des équipes réduites et des petits budgets. Dans leur entreprise, Truffaut, Chabrol, Godard et les autres reçoivent l'aide d'un homme, Pierre Brandberger, un producteur réputé qui s'engage à leur côté. L'aventure cinématographique du groupe des Cahiers du cinéma commence par Le coup du berger de Jacques Rivette, tourné dans l'appartement de Chabrol en 1956. En quelques mois, chacun réalise son court-métrage. Après Rivette, c'est au tour de Truffaut avec Les Mistons, puis de Jean-Luc Godard et d'Éric Rohmer. On fait le figurant chez l'un, on essaie à la caméra chez l'autre, mais il reste à passer l'étape du long-métrage. Le premier à se lancer, c'est Claude Chabrol. Pour une raison très simple, d'abord, l'argent. Oui, dans un art géré comme une industrie, le renouveau de la nouvelle vague est d'abord économique. Or, Claude Chabrol reçoit un sacré coup de pouce. Il raconte.
Il s'est passé que j'ai réussi à avoir de l'argent, une histoire d'héritage et des trucs comme ça. 32 millions, très exactement. Alors, avec ces 32 millions, j'ai essayé d'abord de trouver un distributeur pour n'en mettre que 15. J'ai même essayé de me faire financer une partie par la Sécurité sociale, disant que c'est une histoire d'alcoolique. Ils m'ont répondu que les alcooliques dans les campagnes ne les intéressaient pas parce qu'ils n'étaient pas à la Sécurité sociale et qu'ils n'intéressaient qu'aux alcooliques citadins. Donc j'ai pas eu de subvention. Et puis on a fait le film comme ça.
Mais c'est Serge. Serge. Serge.
Bah, tant qu'il est comme ça, il reconnaît personne, il est bourré comme une grive. Allez, viens, on s'en va.
La genèse de ce premier long métrage illustre parfaitement le putsch organisé par la Joyeuse Bande. Claude Chabrol avait écrit deux scénarii. Pragmatique, il choisit de tourner le moins cher, Le Beau Serge, inspiré en partie de sa vie. Le village de Sardan, en Creuse, où est tourné le film, est celui où il s'est réfugié enfant pendant la guerre. François, un étudiant parisien, sorte de double de Chabrol, donc joué par Jean-Claude Brialy, retourne dans ce village où il retrouve Serge, son ami d'enfance devenu alcoolique, interprété par Gérard Blin. Un scénario aux accents autobiographiques, des acteurs inconnus qui s'habillent et qui parlent avec les goûts et les expressions de l'époque, des scènes filmées en extérieur, une équipe réduite, les premiers principes de la nouvelle vague sont bien là. En finançant le film sur ses fonds propres, Claude Chabrol contourne les règles classiques de production. Une fois terminé, il le présente au Centre National du Cinéma et à sa récente commission d'aide à la qualité qui lui accorde une prime. Le film est remboursé. Ainsi, le cinéma de la Nouvelle Vague bénéficie pleinement de l'appui de cette institution publique. Chabrol a réinvesti immédiatement l'argent pour financer son second film, Les Cousins. Sorti coup sur coup en 1959, il rencontre un vrai succès et c'est une surprise. Chabrol a ouvert la voie et son cas fait jurisprudence. Il ne manque plus au jeune réalisateur qu'un coup d'éclat. Ce sera au printemps de la même année sur la plus belle scène qui soit, le Festival de Cannes.
François Truffaut était, il n'y a pas longtemps encore, un critique virulent. Il fut même l'année dernière banni du festival pour ses critiques. Et voici que cette année, il est accueilli en hôte d'honneur par ce même festival. La première question que je vais lui poser, c'est de lui demander s'il aura lui-même peur de la critique.
Oui, je suis très inquiet de ce qu'on peut penser de ce film. Parce que quand j'écrivais des articles, j'étais animé du désir de convaincre et je n'ai pas perdu ce désir avec le film et je voudrais de toutes mes forces plaire même à mes ennemis, surtout à mes ennemis.
D'autre part, ce film est dédié à la mémoire d'un grand critique qui est mort cette année et qui est André Bazin. Et pourquoi ?
Parce que j'ai rencontré André Bazin à la période la plus difficile de ma vie, justement celle de l'adolescence. Et je crois qu'il est entré dans ma vie au moment où mon film se termine. Et sans lui, je n'aurais sûrement pas fait de cinéma.
Les 400 coups, c'est le film, le titre du film que François Truffaut vient défendre sur la croisette. Depuis un an, la France a changé de république et pour cette 12e édition, le festival est organisé sous la tutelle du tout nouveau ministère de la Culture avec à sa tête le romancier André Malraux. Ce dernier insiste pour que deux films particulièrement novateurs représentent la France en compétition officielle, les 400 coups de François Truffaut donc, mais aussi Hiroshima mon amour d'Alain René. Dans les deux cas, il s'agit de leur premier long métrage. Il est rare, pour ne pas dire inédit, de voir une institution officielle soutenir à ce point et dès ses débuts un mouvement artistique. À Cannes, en ce printemps 59, on le sent, il se passe quelque chose. Pour la première fois, aucun film de Carnet, Delannoy ou Autant Lara n'est en compétition. Pour réaliser le sien, François Truffaut, tout comme Chabrol, contourne les contraintes du système français traditionnel. Il se tourne vers son beau-père, Ignace Morgenstern, un célèbre producteur et distributeur qui se porte garant. Le réalisateur finance son film avec un petit budget, tourne dans son appartement avec une équipe réduite et sans star. Le scénario, lui, est écrit par Truffaut lui-même et s'inspire de son enfance difficile et vagabonde. Alors, on découvre Antoine Doinel, interprété par le jeune Jean-Pierre Léo, le double de Truffaut. Il est environ 20h ce 4 mai 1959, quand les lumières du palais du festival s'éteignent et que le film commence.
Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot.
T'en ai pas, monsieur.
Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Ah, fiche-toi. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Elle était malade?
Bah oui, monsieur.
Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades. Va.
Qu'est-ce que t'as trouvé comme excuse? Oh, laisse-moi tranquille.
Un long plan séquence de la course d'Antoine sur la plage, les cordes de la musique qui ralentissent, ce visage qui se retourne et sur lequel la caméra vient zoomer rapidement en gros plan. Les trois lettres du mot fin ont à peine le temps de remplir l'écran que les applaudissements et les cris de joie jaillissent. François Truffaut, 27 ans, vient de prendre d'assaut le cinéma français. Jean-Pierre Léo est porté en triomphe par le public. En 1h40, le réalisateur a démontré toute la force et l'inventivité du cinéma qu'il défend. Liberté des conventions, ces 400 coups sont aussi une réponse directe au film de son aîné Jean Delannoy, Chien perdu sans collier, sorti en 1955. C'est le même sujet, l'enfance. Et pourtant, il y a un monde entre les deux. Un élan, une jeunesse dans le second, absent dans le premier. Le film de Truffaut a valeur de symbole. Il y affirme les thèses avancées dans ses articles, celles d'un cinéma d'auteur, où le réalisateur est le capitaine du navire. Du scénario jusqu'au montage, en passant par le tournage, c'est lui le référent, le seul maître à bord. Pour Truffaut et les autres, cette politique des auteurs est la seule manière de faire un cinéma authentique et sincère. Parallèlement à ce festival est organisé le colloque de Napoule, à quelques encablures de Cannes. Sur la photo prise à l'issue de ces rencontres, on retrouve Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Roger Vadim ou encore Édouard Molinaro. Photo de famille qui ne dit pas son nom. L'événement se présente comme la mise en avant par le ministère de la Culture d'une nouvelle génération de cinéastes français. Invité à l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter, Jean-Luc Godard explique ce que ces jeunes cinéastes apportent.
Bon, je crois que jusqu'à maintenant, justement, on considérait le cinéma comme un art, qui a à faire ses preuves. Or, je crois que ce qu'ont apporté les jeunes réalisateurs ou ça, c'est que depuis qu'ils font du cinéma, ils ont toujours considéré le cinéma comme l'égal de la peinture, de la musique. Enfin, Eisenstein comme l'égal du Titien, ou Flaherty comme...
C'est le débat que je voulais entamer.
Mais cette comparaison paraît parfaitement exacte.
Je dis que leur pensée profonde est ceci. Alors, et qu'aujourd'hui, mettons, il y a encore, après la libération, les jeunes gens qui voulaient réussir dans la vie culturelle écrivaient un roman, allaient le porter chez Gallimard. Aujourd'hui, ils tournent des films.
Le dernier jour du festival, le palmarès consacre le film de Truffaut qui reçoit le prix de la mise en scène. En revanche, et à la surprise générale, Hiroshima, mon amour, repart bredouille, alors que le film avait marqué les esprits par sa modernité narrative. Dans la foulée, le festival de Cannes joue son rôle habituel de caisse de résonance. Les journaux consacrent leur une au nouveau cinéma français et les films de Truffaut et René rencontrent un incroyable succès en salle. Le phénomène est lancé, producteurs et distributeurs sentent le bouleversement en marche. Un bouleversement pratique, en fait. Voilà des films à petit budget qui rapportent beaucoup. Au printemps 1959, la nouvelle vague est lancée. Bien, mais jusqu'où ira-t-elle ?
Ils ont tous les mêmes manières. Zéro près de nos lits, abandonnés à leur mystère, sans façon, désertant nos vies, ils ont tous les mêmes manières, les hommes, endormis. Le même visage, serein, détendu, rajeuni. Ils ressemblent aux enfants sages, comme parfois ils sourient. Ils ont tous le même visage. Les hommes, endormis, repus et alanguis, au creux de nos bien-être, ils dorment lourdement, inexorablement, avec de même de l'insolence, il dort. avec des ruses de souris. Nous les éternels inquiètes, on les guette, on les guette.
Moi, je suis tombé sur un producteur que je connaissais depuis 2 ou 3 ans qui m'a dit « Est-ce que vous n'avez pas 2 ou 3 sujets pour moi ?» qui était de Bourgard. Et je lui ai dit « Ce que je veux faire au cinéma, j'aimerais bien le faire, mais avec vous, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas la peine que je vous les propose. Alors, aussitôt, quoi, qu'est-ce que c'est apportez-moi ça tout de suite. » un peu vexé que ça ne soit pas pour lui. Et je lui ai apporté. Il a dit « Mais si, c'est tout à fait pour moi. On va le faire. » Il était dans une situation financière où il fallait qu'il risque également, parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. En ça, il était en faillite deux mois après. Moi, j'étais dans la même situation, c'est-à-dire on était tous les deux, tout à gagner et absolument rien à perdre. Et grâce à l'amitié de François et de Chabrol, qui m'ont prêté leur nom pour cautionner l'aventure, il a trouvé un peu d'argent. Et ça s'est fait comme ça.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Il manquait sans doute à la Nouvelle Vague son film manifeste, son totem. Eh bien le voici, c'est À bout de souffle de Jean-Luc Godard, lancé comme un coup de poker. On retrouve l'esprit amical des cahiers, c'est Truffaut qui a écrit le scénario et l'a cédé à Godard. Inspiré d'un fait divers, il raconte la cavale de Michel Poicard, jeune voyou qui tue un policier et retrouve, à Paris, Patricia, une étudiante américaine avec qui il a eu une liaison. Une histoire classique dans la droite ligne des polars américains. Jean-Luc Godard se réapproprie totalement le scénario et démarre le tournage à l'été 59, juste après le festival de Cannes, acte de naissance médiatique de la Nouvelle Vague. Ce tournage, qui dure 4 semaines, illustre à merveille les évolutions techniques dont bénéficient les jeunes cinéastes à cette époque. Avec l'aide de Raoul Coutard, un jeune chef opérateur qui a fait ses gammes dans le reportage en Indochine, il décide de tourner caméra à l'épaule, avec une nouvelle pellicule plus sensible qui donne une lumière éclatante à l'ensemble du film. À chaque étape, comme il l'explique, Jean-Luc Godard décide de repousser les interdits.
C'est un film qui a été fait entre réaction contre tout ce qui ne se faisait pas, presque pathologiquement ou systématiquement. On ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire, bon ben on va le faire. On ne fait pas de travelling à la main, bon ben on va le faire. Ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis. Et ce film qu'on a pris moi-même, pour le début d'un nouveau cinéma, dans mon esprit, c'est la fin du cinéma.
C'est vraiment dégueulasse.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse ?
Seule exception à la règle contre les règles, le choix d'une jeune actrice américaine connue, Jean Seberg. Pour celui de Michel, c'est Jean-Paul Belmondo qui est choisi, un acteur pas encore célèbre, mais qui a déjà tourné avec Jean-Luc Godard. Il est donc moins surpris que Jean Seberg de voir arriver les dialogues le matin même du tournage, de devoir improviser, jouer avec cette caméra vive et mobile qui tourne autour d'eux. Chaque jour, sur le tournage, on invente. On utilise un triporteur de la poste pour un travelling, où on tourne une séquence en plein milieu de la foule, avenue des Champs-Élysées. Alors il se dégage du film, comment dire, une vérité, où il y a un côté presque documentaire. Puis c'est au montage que Jean-Luc Godard donne sa pleine mesure. Il continue de casser toutes les règles pour définir une nouvelle grammaire cinématographique. Montage syncopé, son in, son off, changement d'axe, faux raccord, regard caméra, arrêt sur image, tout y passe. Sous couvert de désordre, de fragments, tout est pensé en fait, maîtrisé. En un seul film, Jean-Luc Godard pose les thèmes et les mythes d'une génération. Alors il y a un avant et un après à bout de souffle. Le film sort en salle le 16 mai 1960 et c'est un choc. Qu'on aime ou qu'on déteste, À bout de souffle jette les bases d'une esthétique moderne et confirme la vitalité en salle de la Nouvelle Vague puisqu'il réunit plus de 400 000 spectateurs, un succès pour l'époque. En 2 saisons, printemps 59, printemps 60, la Nouvelle Vague s'est imposée au cinéma. Les spectateurs apprécient ces films où on laisse une place à l'interprétation, à l'incertitude, où ils retrouvent les gestes et les mots de leur génération. De leur côté, les producteurs s'arrachent, ces jeunes cinéastes. En 2 ans, près d'une centaine de premiers films sortent en salle, du jamais vu. Le phénomène devient mondial, les revues internationales consacrent toutes des articles nouveaux au cinéma français. Dans le sillage de Chabrol, Truffaut et Godard, d'autres réalisateurs des cahiers peuvent se lancer avec d'autres films. Paris nous appartient, de Jacques Rivette, Le signe du lion d'Éric Rohmer, Adieu Philippines de Jacques Rosier. On retrouve souvent les mêmes noms d'ailleurs au générique. Raoul Coutard ou Henri Decaye à l'image, Paul Géjoff et Jean Roux au scénario, Georges Delerue à la musique, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léo, Jean-Claude Brialy et Bernadette Lafont à l'écran. C'est l'âge d'or de la nouvelle vague.
La parole est à la jeunesse.
La plupart des films Nouvelle Vague est un reflet assez exact de la jeunesse.
Vous avez déjà aimé?
Oui, comme ça, comme vous dites. J'ai toujours eu peur de me faire avoir. C'est vraiment triste.
J'aime bien ces films.
Pourquoi?
Ah, parce qu'ils sont très sensuels.
Bonjour, je vous dérange?
Non, pas du tout.
Je ne voulais pas vous dire au téléphone parce que je préfère voir les yeux des gens quand je leur parle.
C'est épouvantable, c'est grotesque,
c'est affreux.
Et c'est horrible.
Vous êtes né sous le signe du lion?
Oui.
Moi aussi.
Ah, oh, c'est merveilleux, c'est le signe le plus noble.
C'est une tendance nouvelle dans le cinéma comme dans la littérature.
Tu connais William Faulkner?
Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui?
Mais non, mon coco.
Alors je me fous de lui.
Enfin, j'ai vu jouer à bout de souffle et je trouve qu'on s'efforce beaucoup de salir les choses et les gens inutilement.
Il dit que tout va très bien et qu'elle n'arrive pas à allumer sa cigarette. Eh bien, c'est qu'elle a peur de quelque chose.
Je trouve que c'est vraiment le cinéma qui a montré la vérité, la vie telle qu'elle est.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
L'image de la vague n'a sans doute jamais aussi bien porté son nom qu'au moment du ressac. Car la sentence arrive, et vite. Dès l'été 60, le phénomène fait connaissance avec l'échec. Car de nombreux réalisateurs sont lancés dans le grand bain, il faut bien le dire, en dépit du bon sens. Les films de Rivette et de Rohmer font peu d'entrées. Pire, les chefs de file comme Chabrol avec Les Bonnes Femmes ou Truffaut avec Tiré sur le pianiste ne rencontrent pas leur public. Certaines critiques contre À bout de souffle de Jean-Luc Godard sont sans pitié. Dans François, Michel Aubryant écrit par exemple, et tout en finesse, « Il faut fusiller Godard. Le principal est de l'empêcher de nuire. Le salut du cinéma est à ce prix. » L'ancienne garde ne se prive pas non plus. C'est le moment de la riposte. À l'automne 60, Denis de la Patellière sort son nouveau film « Rue des Prairies ». Sur l'affiche, un slogan « Jean Gabin règle ses comptes à la nouvelle vague ». Michel Audiard, le dialoguiste du film, publie dans Art une de ses formules mémorables. Et il dit « La nouvelle vague est morte » et l'on s'aperçoit qu'elle était au fond beaucoup plus vague que nette. Tout le monde y va de sa critique, l'écrivain Jean Giono au premier rang.
Eh bien, je pense d'abord que le mot de vague ne convient pas pour celle-là. Parce que quand on pense à une vague, on pense à quelque chose de crêté d'écume, d'azuré, de choses admirables avec un très beau rondement sur le sable. C'est pas du tout le cas pour la nouvelle vague. C'est une vague qui serait à l'issue des égouts d'une grande ville. C'est pas une vague de pleine mer. Ce que je lui reproche, moi je lui reproche de se complaire dans les choses laides, de faire tout ce qu'il faut pour que les gens soient malheureux plutôt qu'heureux. Je n'ai jamais été saisi par quelque chose de profondément émouvant dans ce qu'ils m'ont apporté jusqu'à maintenant. Je crois qu'on a trop flatté la jeunesse.
Alors on s'interroge, qu'est-elle vraiment cette nouvelle vague? D'ailleurs, est-elle si nouvelle? Et puis, qui faut-il intégrer dans ce concept ou exclure? D'ailleurs, chaque interview de l'un des jeunes réalisateurs commence par la question « Vous en êtes ou pas ?» Au départ, il refuse l'expression. Bon, une invention de journaliste. Une marque de savonnette, répond malicieusement Chabrol. Tour à tour, ils affirment n'avoir rien inventé. Mais non, ils s'inspirent de leur maître, les néo-réalistes italiens Rossellini et consorts, qui, dès les années 40, avaient sorti leur cinéma hors des studios. Chacun défend la diversité du mouvement et son originalité. Et puis vient la question qui fâche. La nouvelle vague serait-elle de droite? Leurs références, comme Hitchcock, Rossellini ou Huston, considérés comme des cinéastes réactionnaires, leur opposition à Positif, revue classée à gauche, l'absence de politique, d'enjeu social dans ce cinéma qui n'aurait rien à dire, bref, tout concourt à positionner la Nouvelle Vague à droite de l'échiquier politique. Face à l'offensive, la jeune garde change de braquet. Elle se montre unie et revendique son appartenance à un mouvement. En témoigne un numéro de l'émission Cinéaste de notre temps, réalisé en 1964, où l'on voit les principaux protagonistes ainsi que leurs parrains, réalisateurs ou producteurs, venir témoigner de l'impact qu'a eu le phénomène. Si les jeunes Turcs se montrent unis face à la contre-offensive, ils suivront finalement leur propre chemin. Au fil des années et des films, chacun affirmera son identité, son style, son cinéma. Les amis d'hier se font parfois ennemis. Après mai 68, notamment, pendant lequel Godard et Truffaut mènent la révolte ensemble au Festival de Cannes, mais où quelque chose se brise entre les deux amis. Godard prendra la direction des films politiques à faire politiquement, comme il le dit. Truffaut, lui, tournera jusqu'à sa mort des films dans un style plus classique. Reste que le temps de la Nouvelle Vague planera toujours au-dessus d'eux comme l'ombre d'une aventure commune, ce moment particulier d'une jeunesse cinématographique. Jean-Luc Godard ne dira pas autre chose sur le plateau d'Apostrophe, peu de temps après la mort de François Truffaut, c'était en 1984.
Moi j'ai pu tout réussir à ne pas mourir, de ne pas réussir, si vous voulez. Tout à fait différent par rapport à François, dont, avec sa mort, lui avait réussi ce que nous on n'a pas réussi. Il avait réussi à faire respecter une autre idée du cinéma, disons, que celle d'Hollywood, en gros. Et maintenant qu'il est mort, on sent qu'on... on ne gêne plus pour dire du mal de la Nouvelle Vague. Du temps de François, on pouvait en dire du mal, mais c'était quand même quelque chose, parce que lui, enfin j'aurais souhaité pendant longtemps, je me suis moqué de lui en disant « tu finiras à l'Académie française », ce qui était péjoratif pour moi. J'ai fini par comprendre que, ben effectivement, s'il y était, on était protégé jusqu'à la fin de sa vie. Et il a payé plus tôt que moi, donc je lui dois beaucoup pour ça. Mais il en est mort plus tôt.
Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la Nouvelle Vague au cinéma avec notre invité Antoine Debac. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien et critique de cinéma, professeur à Normale Sup. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et d'un documentaire sur la Nouvelle Vague. Alors, on l'a vu au début du récit, l'histoire de cette Nouvelle Vague, comme souvent dans les histoires de cinéma, c'est d'abord une histoire de cinéphile. Hein. C'est une passion, un désir de cinéma d'abord, comme spectateur. Ça, ce sont tous ces réalisateurs de la Nouvelle Vague. On y reviendra. Mais vous, Comment vous avez découvert les films qu'on dit de la nouvelle vague? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Est-ce qu'il y a un film emblématique pour vous dans votre histoire personnelle par rapport au cinéma?
D'abord, moi, je viens un petit peu après quand même. Je suis pas de cette génération-là, mais j'ai rencontré le cinéma, on peut dire un peu de la même façon. C'est-à-dire que je suis d'abord cinéphile.
Ouais.
Moi, je suis entré dans le cinéma avec les films que ces réalisateurs-là ont réalisés 20 ou 30 ans plus tard. C'est-à-dire que j'ai vu d'abord les films de Godard, de Truffaut dans les années 70. C'est-à-dire que voilà. Donc c'est vrai que c'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma, dans ce cinéma particulier de la Nouvelle Vague, puisque je me suis demandé comment ils avaient commencé. Et bon, moi, l'événement qui a été évidemment, enfin, fondateur. C'est un événement assez triste, c'est la mort de Truffaut, Godard en parlait. En octobre 1984, Truffaut meurt jeune, hein, il meurt à 52 ans.
Ouais.
Et à ce moment-là, moi j'avais jamais rencontré Truffaut, j'avais vu ses films. D'une certaine manière, j'avais pas vu les anciens. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les DVD. On pouvait pas, ce passé du cinéma était encore quelque chose qui gardait un mystère, qui gardait un éloignement, un secret. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai écrit une lettre qui était une lettre qui s'adressait à Truffaut, qui venait de mourir, et je l'ai envoyée à la, on pourrait dire la poste restante de Truffaut, la maison de Truffaut, c'est-à-dire les cahiers du cinéma. Mmh. Et cette lettre a été publiée, voilà, et c'est mon premier texte dans les cahiers en décembre 84. Et c'est à partir de ce moment-là que entrer au cahier, à l'intérieur du temple, j'ai voulu comprendre comment tout ça était né. Et donc j'ai replongé dans les cahiers, dans les films de la Nouvelle Vague. Et j'ai re-rembobiné, si vous voulez, cette histoire, et repartant jusqu'au 400 coups, jusqu'à à bout de souffle.
Eh bien, écoutez, vous êtes à la bonne place, parce que à partir de tout cela et des recherches que vous avez faites, je peux vous poser la question qui est difficile. Hein. Qu'est-ce qui définit la Nouvelle Vague, selon vous? C'est quoi? C'est un mouvement? Et si oui, autour de quoi se regroupent ces cinéastes, finalement?
Je pense que ce qui donne cette force à cette force de d'irruption, votre récit insistait bien là-dessus. Je pense que c'est il y a quelque chose de très novateur, de très nouveau, de très presque un peu violent, hein, pour l'époque. Elle est secouée, cette époque, par l'arrivée de ces films. Je pense que ce qui fait cette irruption, ce qui donne cette violence, c'est la rencontre entre un projet de cinéma qui est extrêmement réfléchi, mûri, puisque vous l'avez dit, il a été en quelque sorte pensé, écrit, je dirais presque gueulé dans ces ateliers qui étaient l'écriture, hein, la critique, les cahiers du cinéma, art. Donc c'est-à-dire 7-8 ans avant de passer à la réalisation, ils étaient tous des critiques, ils avaient tous vu des films, ils savaient peu près ce qu'il voulait faire comme film. Et donc la rencontre entre ce cinéma qui était très très mûri et puis une époque. Je pense que voilà, tout d'un coup il y a eu cette rencontre qui tient un petit peu du miracle, qui était le projet même de ces jeunes gens, c'est-à-dire sortir dans la rue, filmer non pas des vedettes mais filmer des amis, filmer des histoires personnelles avec peu de moyens, donc avec des caméras très simples qui permettaient de s'émanciper du studio. Cela a rencontré l'arrivée sur la scène publique, hein, d'une nouvelle génération qui s'est d'ailleurs appelée la Nouvelle Vague. Et c'est pas du tout étonnant que, d'une certaine façon, ce terme de Nouvelle Vague qui va s'appliquer au cinéma, il s'applique d'abord à cette génération nouvelle.
Oui, il y a une idée de déferlante. Hein,
déferlante.
Le slogan Nouvelle Vague, la trouvaille est bonne d'ailleurs.
Absolument, hein, c'est Françoise Giroud est une très très bonne journaliste.
Ah, c'est signé, oui. Alors le développement du cinéma en même temps, les ciné-clubs, la cinémathèque, on a l'impression que c'est une époque aussi où le spectateur est plus associé, il est moins consommateur, et que la Nouvelle Vague arrive comme une vraie cohérence dans cet ensemble.
Oui, il y a une formation, c'est-à-dire, je pense que le cinéma pouvait être une sorte de seconde école, d'école buissonnière, oui. Et tous d'ailleurs, Truffaut évidemment, il l'a filmé dans les 400 coups, mais beaucoup ont fréquenté plus ou moins les bancs de l'université, mais leur vraie école, leur vraie formation, la vraie initiation aussi bien à la vie vie qu'à la culture, qu'à la pensée, hein, finalement, c'est voir des films, et c'est en discuter, et c'est écrire sur les films. Donc je pense que c'est la première génération, non pas qui est cinéphile, mais c'est la première génération qui va trouver dans les ciné-clubs et puis dans les revues de cinéma un espace où s'exprimer, un espace où se regrouper, un espace où définir véritablement une sorte de programme intellectuel et artistique, c'est-à-dire passer à la réalisation, ce que Godard disait très bien en 1950, un jeune homme qui voulait être écrivain et apporter son livre chez Gallimard, 10 ans plus tard, un jeune homme quand il rêve d'être artiste, c'est par le cinéma.
L'un des grands ingrédients de la nouvelle vague, est-ce que c'est aussi le cinéma d'auteur, c'est-à-dire que le réalisateur écrit son film?
Alors ça fait partie des idées qui ont été justement mûries par ces jeunes gens pendant qu'ils étaient critiques, c'est-à-dire ce que Truffaut a appelé la politique des auteurs, ce qu'on a défini à partir d'un corpus théorique. Hein. Évidemment, ils se sont appuyés sur la vision des films et sur la vision de certains auteurs justement qu'ils ont pu élire, choisir et défendre. Et il faut se replacer dans le contexte du milieu des années 50. Hein. Ces auteurs sont à chaque fois des auteurs polémiques. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, évidemment, Hitchcock, Rossellini font partie du Panthéon. Mmh. À ce moment-là, choisir Hitchcock, c'est quelque chose de très polémique, à la fois parce que on prend quelqu'un qui est d'abord un metteur en scène, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui compte plus chez Hitchcock, c'est la manière dont il filme les histoires que le fond de l'histoire, que son discours, si vous voulez. Et puis d'autre part, c'est une provocation politique. Vous avez signalé ça, la Nouvelle Vague était vraiment considérée comme un mouvement de la jeune droite, hein. C'est-à-dire cette idée que on parle d'abord du style, on parle d'abord de la forme, et que finalement le fond, le thème, les grands sujets, hein, c'était moins important. Or tout le discours de l'époque, le discours, je dirais, dominant de l'époque, c'est un discours au contraire de l'engagement politique, un discours où la jeunesse doit trouver des causes.
C'est tout sauf conservateur.
Exactement.
C'est le contraire même.
Et puis il y avait cette provocation aussi d'aimer des cinéastes américains. Mmh. On est dans un moment où en pleine guerre froide comme ça, où quand même le parti communiste domine assez largement, de façon presque hégémonique comme ça, la scène intellectuelle, et un jeune homme de 1955, son premier rêve, c'est plutôt un rêve d'engagement, un rêve d'aller manifester, peut-être aussi c'est être dans l'histoire, de manifester contre la guerre d'Algérie par exemple. Mmh. Les jeunes de la nouvelle vague, c'est pas du tout ça leur rêve, c'est de s'enfermer dans une salle de cinéma, de voir un film d'Hitchcock, un film américain, de décerner les plans, la manière dont la caméra bouge, dont elle fait des gros plans, et à partir de cela, de se rêver cinéaste, c'est-à-dire de dire, moi je vais faire pareil, je vais être un auteur, je vais prendre ma caméra, et ce qui compte, c'est la façon dont je veux raconter une histoire personnelle, et de ne pas passer par le scénariste, le décorateur, etc. Donc il y a un rêve de la nouvelle vague qui se construit à ce moment-là, mais qui est en bonne partie quand même provocateur et iconoclaste.
Alors, on est toujours tenté de se poser la question, qu'en reste-t-il? Ce qu'il en reste, ce sont les films qu'on peut voir, les débats qu'on peut avoir, comme on les a aujourd'hui sur la nouvelle vague. Et puis, il est intéressant de savoir ce que les jeunes Français qui veulent devenir cinéastes en pensent. Alors, Annel Verzo s'est rendu à la FEMIS, l'école de cinéma la plus connue en France, pour essayer de mesurer, effectivement, ce qu'il reste de cette nouvelle vague au sein de la future génération de cinéastes, peut-être une nouvelle vague, sait-on jamais.
Habillage, maquillage, régie vidéo, montage vidéo, c'est à droite. Plateau, menuiserie, matériel électronique, essai, caméra, magasin, régie plateau, loge 1-4, auditorium, accessoires, décor, transit. On est au sous-sol. Salle 23, salle de montage.
Bonjour.
C'est le speed là.
Il parle de quoi le film?
Ça parle d'un conflit de génération.
Là on voit que vous avez 3 écrans.
Ça c'est l'écran qui donne l'image telle qu'elle sera à la fin, qui est talonné en fait. Et ça donne en fait des indications sur les hautes et les basses lumières dans l'image.
Voilà, il faut retravailler les images. Là il y a 2 visages.
Elle va relever la tête à un moment.
Vous êtes 6 étudiants.
On tourne chacun un court-métrage de 5 à 10 minutes qu'on a écrit et réalisé. On est par groupe de 10 et l'idée, c'est de tous passer par chaque poste. On tourne à partir de demain le dernier tournage, le dernier film.
Alors, de quoi il parle ?
C'est un cauchemar qui se déroule dans des toilettes d'un club. Une jeune fille qui n'arrive pas à sortir des toilettes.
Dur, ça.
Oui, ça va être un beau travail sur l'image et le décor, justement, mais ça tombe bien.
Violette, est-ce que la nouvelle vague, ça a été un élément pour toi important ou pas du tout ? Est-ce que ça t'évoque quelque chose, déjà ?
Oui, ça me parle. Après, ça fait peut-être pas partie de ce que je pourrais appeler mes films préférés. Disons que ça m'a touchée, je pense, pendant mon adolescence, plutôt, c'est le moment où j'ai dû voir des films de la nouvelle vague. Et là, je pense plutôt à peut-être des films de Godard, mais ceux qui m'ont plus touchée, c'est peut-être ces films qui sont les plus narratifs, où on raconte plus des histoires. Moi, j'aime bien vraiment l'idée de raconter des histoires, plutôt que juste de contempler des expériences esthétiques au cinéma. Et À bout de souffle, moi, je dirais que c'est À bout de souffle qui m'a beaucoup marqué.
Ton prénom ?
Olivier. Moi, ce que j'aime dans la nouvelle vague, c'est la liberté formelle, le fait qu'on ne s'embête pas avec des histoires de raccords, qu'on ne s'embête pas avec des installations lumières ou des installations techniques très complexes. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu auto-centré. Tous les films qui sont un peu méta-discursifs, on parle du cinéma, le cinéma dans le cinéma.
Vous avez besoin de désacraliser la nouvelle vague ?
Oui, je pense.
Parce que la nouvelle vague, il y avait autre chose aussi. Il y avait l'idée que presque n'importe qui pouvait d'un seul coup faire du cinéma. Pas n'importe qui, ce sont des critiques de cinéma qui deviennent réalisateurs. Mais quand même, ils n'ont pas eu la formation que vous avez maintenant à l'école, par exemple.
Aujourd'hui, les écoles de cinéma sont de plus en plus remises en question parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent apprendre sur le tas, sur Internet. Les moyens techniques sont de plus en plus accessibles. On peut vraiment faire des films avec pas grand-chose aujourd'hui.
Toi, tu veux être réalisateur ?
Non, chef opérateur.
Est-ce que vous vous sentez appartenir à un groupe actif qui pourrait investir un nouveau cinéma ?
Enfin, on est un peu des enfants de YouTube, quoi. Non, mais pas que. Mais du coup, mine de rien, ce genre de film un peu mainstream et blockbuster, moi, m'ont énormément influencé. Les films de Baz Luhrmann, les grands blockbusters, Harry Potter, on est une génération Harry Potter et tout. Finalement, le raccourci avec la nouvelle vague, c'est que les réalisateurs de la nouvelle vague étaient aussi influencés par des films blockbusters de l'époque, Hawks, Hitchcock et tout. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie parce que on a l'impression que maintenant la référence qu'il faut avoir quand on veut faire du cinéma d'auteur, c'est la nouvelle vague. Alors que de base, ce qui est contradictoire, c'est que la nouvelle vague s'est basée sur des films américains, grand public.
Ah, mais après, la nouvelle vague aussi, elle a été influencée par du cinéma d'auteur américain de l'époque aussi. Genre, je pense aux Petits Fugitifs.
Ouais, les films noirs, tout ça, ouais, les films Z.
C'était des films de photographes, c'était pas des films de rave.
C'était pas un cinéma de niche autant que le cinéma d'auteur a pu le devenir en France.
Quelles sont vos autres références ?
J'ai un grand tropisme pour le cinéma américain, mais pas que. En même temps, j'aime beaucoup regarder des films de Tarkovsky. En même temps, j'aime bien Le Parrain. En même temps, j'aime bien Mad Max. Et en même temps, Le Château de l'Araignée, qui est un film japonais. Effectivement, c'est l'idée d'aller picorer un petit peu partout. Et du coup, je pense que c'est en ça qu'on désacralise un peu la nouvelle vague.
Et oui, parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que d'aller dans une salle de cinéma et de voir des gens ressortir en disant « Ah non, encore un film français !» Enfin, moi, quand j'entends ça, je me dis « Bon, la nouvelle vague a encore frappé, ou en tout cas, ce qui a découlé de la nouvelle vague a encore frappé. » Et je pense que on a aussi une volonté de dire « Non, stop, le cinéma français, c'est aussi autre chose. » Et que le cinéma français pourrait pas se résumer à, d'un côté, des grosses comédies commerciales, et de l'autre côté, un cinéma d'auteur qui sont faits que pour des pariso-parisiens ou alors une élite culturelle minoritaire en France, quoi.
Ça y est, elle est ouverte, comme le micro. Antoine Debac, il y a beaucoup de sentiments entremêlés dans ce qu'on vient d'entendre.
Oui,
il n'y a pas de rejet. En même temps, c'est un peu le rapport que la génération post-68 a pu entretenir avec la génération 68 et lui dire à un moment, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait penser par nous-mêmes ? Il n'y a pas de
oui,
ça ?
Oui, je pense que c'est aussi le témoignage du succès, voire du triomphe de la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, elle est partout. Et donc, ce qui était provocateur et révolutionnaire en 59-60, c'est-à-dire sortir dans la rue pour tourner avec avec une caméra assez légère, une histoire personnelle, c'est devenu aujourd'hui le lot de 99% du cinéma français. Donc et puis, par exemple, le fait que c'est vrai que ces années 59-60, tout d'un coup, il y a un tiers des films qui sont des premiers films. Bon, c'est quelque chose qui est resté absolument constant dans le cinéma français. Depuis aujourd'hui encore, un tiers des films français publiés tous les ans sont des premiers films. Donc c'est l'apport de la nouvelle vague, mais c'est en même temps aussi à l'intérieur de ce triomphe, il y a quelque chose de voilà d'un peu inexorable et qui est devenu presque un peu le cinéma courant, le cinéma banal, le cinéma mainstream. Donc forcément, un jeune homme d'aujourd'hui, je comprends très bien que il est pas envie qu'on le compare à ça ou qu'on ramène toujours son cinéma à ça. Mais il y avait une phrase qui m'a frappé, faire un film avec pas grand chose, c'est ça son l'ambition. Or, c'était celle exactement de la nouvelle vague, c'est-à-dire faire un film avec pas grand chose, c'est ça mais d'une certaine manière qui a ouvert la nouvelle vague. Voilà. Et puis ça veut dire faire un film avec pas grand chose, ça veut dire se condamner à l'invention, parce que faire un film avec pas grand chose, ça veut pas dire faire un mauvais film. Bien ça sûr. Veut dire faire un bon film en trouvant, à partir de la pauvreté, d'une certaine manière, inventer un nouveau cinéma à partir de ça.
Alors, comme la question, êtes-vous plutôt Beatles ou Rolling Stone? J'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes plutôt Truffaut ou Godard, qui restent quand même les deux noms emblématiques de la nouvelle vague. Lequel incarne le plus la nouvelle vague? Tous les deux dans des styles différents. Quel est votre regard sur ces deux-là?
Moi, j'ai toujours choisi de pas choisir. Alors, je suis un peu décevant de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est un peu un sport, je dirais, en France et un peu dans le monde entier d'ailleurs, hein, puisque ce sont des cinéastes qui ont influencé partout, de choisir Truffaut ou Godard. Moi, je dirais qu'ils ont incarné la nouvelle vague de deux manière assez différente. Truffaut l'a incarné parce qu'il l'a vécu, c'est sa vie qu'il a offert comme ça, c'est-à-dire le fait d'être sauvé par le cinéma et de vouloir raconter sa vie, puisque tous ses films sont autobiographiques, de raconter sa vie à travers les films et que ça touche comme ça partout dans le monde, et ça c'est quelque chose qui vient de la nouvelle vague, raconter sa vie par le cinéma. Et puis d'autre part, je pense que Godard, tout simplement, c'est le plus grand révolutionnaire de la forme. Voilà, c'est celui qui a réinventé le cinéma, et ça aussi il l'a fait au nom de la nouvelle vague, au nom de cet iconoclasme de tout refuser comme ça, de faire autrement, et ça il l'a offert d'une certaine manière pour toujours. Le nom Godard égale le nom cinéma, il l'a très vite mis dans ses génériques et c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui valable.
Et les rapports entre les deux?
Le rapport entre les deux, c'est assez compliqué et complexe, et on est passé d'une amitié à une haine. Bon, c'est quelque chose d'assez courant finalement, mais je définis assez bien les deux manières d'être cinéaste, les deux manières d'incarner la nouvelle vague et d'une certaine façon d'être artiste.
Merci infiniment Antoine Debac pour vos connaissances sur la nouvelle vague dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci, au revoir.